Merci Florent et l'équipe de Louange de nous avoir conduits dans ces moments. On a déjà lu beaucoup de versets ce matin. C'est bon de pouvoir se plonger dans la parole et c'est ce qu'on va continuer de faire maintenant. Comme vous le savez, on est dans une série sur l'évangile de Matthieu et en ce moment on termine le sermon sur la montagne, les chapitres 5 à 7. Et là on est sur la fin du sermon sur la montagne où Jésus va nous présenter à chaque fois deux choses. Il va nous donner des avertissements avec à chaque fois deux choses qui sont un petit peu en contradiction. Aujourd'hui, on va pouvoir parler de deux portes et de deux chemins. Ensuite, on verra aussi qu'il y a deux arbres différents, deux constructeurs différents. Certains qui construisent leur maison sur du sable, l'autre sur du rocher. Je pense que c'est des histoires qu'on a tous étudiées quand on était petit, peut-être. Et Jésus, on voit que dans ses enseignements, il utilise des images fortes. Il aime bien un petit peu choquer son auditoire en utilisant des images qui sont un peu fortes et justement en mettant en contraste deux choses différentes. C'est typique de son enseignement. Et c'est ça qui parle aux gens, ça parlait aux gens à l'époque. Et je crois que ça nous parle encore aussi aujourd'hui. On avait vu dans les passages d'avant que Jésus, il parle de la colère, il parle des pensées, il parle de la convoitise, il parle de l'amour de l'argent, et parfois il utilise des mots qui sont chocs, comme se couper la main ou s'arracher un œil. Et quand on lit ça de premier abord, on voit que ça peut choquer, mais c'était la manière d'enseigner de Jésus, d'utiliser des images fortes comme cela. Et aujourd'hui, on va parler d'une porte étroite. Et quand j'ai lu ce passage, ça m'a rappelé une histoire où un jour j'étais avec des amis et ils m'ont invité à aller explorer une grotte. Donc j'avais une quinzaine d'années à peu près à l'époque. Donc j'avais jamais fait ça du tout. Donc je me suis embarqué avec eux dans l'aventure, en voulant essayer cette nouvelle discipline. Et donc au début, tout allait bien. On est arrivé dans la grotte par le haut en fait. Donc on devait descendre en rappel dans la grotte. Et au début, tout va bien. Donc on arrive un peu dans une caverne comme ceci là, où il y a encore un petit peu la lumière du jour qui est là. Il y a un grand espace. Et on se dit, en fait, ça va aller, quoi. On va avancer. Après, il y aura un peu moins de lumière, mais on a des lampes et on va pouvoir continuer dans ce chemin et puis aller explorer cette grotte. Donc, on a commencé à avancer. C'était de plus en plus sombre. Et puis, au bout d'un moment, la personne qui connaissait un petit peu mieux l'endroit nous a dit, là, en fait, on est à un croisement. Donc, il va falloir qu'on fasse un choix. En fait, soit on continue par la droite. Donc, c'est un chemin qui est confortable, qui est large, mais bon, le truc c'est qu'on va faire 100 mètres et puis il n'y aura pas grand chose à voir, et puis on va devoir rentrer par le même chemin. Ou alors, on peut bifurquer ici, donc c'est un petit peu étroit, mais après par contre on va arriver sur un super endroit avec plein de choses à voir. Il nous a pas promis qu'il y aurait un trésor à trouver derrière, mais en tout cas il y aurait des belles choses à voir, mais par contre ça allait être un petit peu étroit ce passage. Sauf que, en fait, étroit dans ma tête, j'avais pas prévu que c'était étroit comme ça, en fait. Et au fur et à mesure qu'on avançait, c'était vraiment, vraiment, on était coincé. Et c'était vraiment comme sur cette image où on devait ramper, en fait, dans la terre. Et on avait vraiment du mal à passer. Et là, je me suis rendu compte que c'était vraiment très, très étroit. Et quand j'ai lu ce passage de ce matin, qu'on va lire après, ça m'a fait penser à cette aventure qu'on a vécue là. Je vais vous raconter la suite un petit peu plus tard, on va lire le texte, et puis si vous voulez savoir si j'ai réussi à aller jusqu'au bout, on verra tout à l'heure. Déjà, je suis sorti parce que je suis là ce matin. Donc. J'espère qu'il n'y a pas de claustrophobe ce matin dans la salle, sinon ça va vous étouffer un petit peu. Mais... Allez, on va lire le passage du jour, du coup, qui est dans Matthieu 7, les versets 13 à 14. J'ai mis deux versions, on va lire les deux versions, parce qu'il n'y a que deux versets ce matin dans ce qu'on va étudier, donc ça va être rapide. Entrez par la porte étroite, en effet, large est la porte, spacieux le chemin menant à la perdition. Et il y en a beaucoup qui rentrent par là. Mais étroite est la porte, resserré le chemin menant à la vie, et il y en a peu qui les trouvent. Dans la version Summer, il y a des petites différences quand on parle du chemin. Entrez par la porte étroite, en effet, large est la porte, et facile la route qui mène à la perdition. Nombreux sont ceux qui s'y engagent. Mais étroite est la porte et difficile le sentier qui mène à la vie, qu'ils sont peu nombreux ceux qui les trouvent. Je vais encore prier, Seigneur, que tu nous guides ce matin à pouvoir nous nourrir de ta parole et que nos cœurs soient ouverts à recevoir ce que tu veux nous dire ce matin. Merci parce que tu nous as laissé ces enseignements qui sont forts, qui sont percutants, et on veut les appliquer dans nos vies aujourd'hui pour être tes disciples du mieux que l'on peut et pouvoir briller autour de nous. Seigneur, s'il te plaît, parle-nous ce matin et guide-nous à travers ce que tu veux nous dire. Amen. Alors les auditeurs de l'époque, ils avaient en tête les textes de l'Ancien Testament. Et dans Deutéronome 30, 15 à 20, on peut lire la chose suivante. « Vois, je te propose aujourd'hui vie et bonheur, mort et malheur. Si tu écoutes les commandements de Yahweh ton Dieu, que je te prescris aujourd'hui, et que tu aimes Yahweh ton Dieu, que tu marches dans ses voies, que tu gardes ses commandements, tu vivras et te multiplieras. Yahweh, le Seigneur ton Dieu, te bénira dans le pays où tu entres pour en prendre possession. Mais si ton cœur se détourne, et si tu n'écoutes point, et si tu te laisses entraîner à te prosterner devant d'autres dieux et à les servir, vous ne vivrez pas de longs jours sur la terre où vous pénétrez. Je te propose la vie ou la mort. Choisis donc la vie pour que toi et ta postérité vous viviez, aimant ton Dieu, écoutant sa voix, s'attachant à lui. » Alors si quelqu'un aujourd'hui vient te voir et te dit « Ben, je te propose la vie ou la mort », bon, le choix il est quand même assez simple dans notre tête. On se dit ben, on va choisir la vie. Le choix il semble simple. Et Jésus il reprend ces mots dans les textes qu'on a lus juste avant. Il dit « Entre par cette porte-là parce que c'est cette porte-là qui va te mener à la vie. » Et en fait, ce texte, le texte qu'on étudie aujourd'hui, il semble nous présenter en fait l'alternative entre un choix et un non-choix. En réfléchissant dans notre vie, il est facile de se laisser emporter par le courant naturel de nos instincts, de nos envies, de notre environnement, sans forcément se poser beaucoup de questions. Comme si on était emporté un peu sur un tapis roulant. Parfois, on a l'impression d'être dans la vie, où il y a une multitude de gens qui sont là-dessus, et c'est un peu comme un tapis roulant. Et lorsqu'on est embarqué sur ce tapis roulant, ben en fait, on avance et parfois on ne se pose plus beaucoup de questions. Et c'est assez facile de se laisser emporter dans ce courant où il y a beaucoup de monde et un petit peu ce tapis de roulant de la vie. Et cet enseignement de Jésus, ben, il vient nous interpeller et nous dire ben, « tu dois faire un choix ». Le premier verset, c'est voilà, « entre par la porte étroite ». Il nous invite à se positionner et à faire un choix. On voit qu'il nous propose deux routes en fait, entre par la porte étroite. Il y a beaucoup de monde qui vont sur cette route-là, mais cette route elle mène à la perdition. Et moi je te propose un autre chemin où il y a peu de monde qui s'y engage, mais celle-ci elle mène à la vie. Alors je vous propose qu'on étudie tout d'abord un petit peu la porte étroite. Qu'est-ce que ça veut dire la porte étroite? Alors déjà, la porte elle est étroite parce que je dois rentrer seul par cette porte. C'est un choix personnel que tu dois faire. Quand je reviens dans mon histoire de la grotte, en fait, on était un groupe de 5-6 personnes et le guide nous a posé cette question, alors qu'est-ce que vous voulez faire? Et il ne nous a pas forcé à y aller en nous disant, bah, de toute façon, si vous venez pas avec moi, je vous laisse là et puis vous débrouillez pour remonter. En fait. Il nous a dit, ben voilà, si vous ne vous sentez pas, si vous avez peur, pas de problème, vous restez là, nous on va aller explorer ce chemin. Et puis on va revenir vous chercher, et puis on remontera ensemble. Il ne nous a pas forcé à venir avec lui. Et on s'est très vite rendu compte qu'en fait, on n'allait plus pouvoir marcher côte à côte, main dans la main, et puis avancer dans la caverne, mais qu'on allait devoir passer un par un dans ce petit espace, et qu'il n'y avait pas la place pour passer à deux. Et quand Jésus nous parle qu'il faut qu'on prenne ce chemin par la porte étroite, c'est qu'à un moment donné, ben, c'est un choix personnel à faire. On entre un par un par cette porte. Il n'y a pas la place de passer à plusieurs. Contrairement à la porte large où là on peut passer à plusieurs, où on peut peut-être passer inaperçu, où on peut suivre la foule, le mouvement, où on n'a pas forcément besoin de se positionner, on avance et puis on verra bien. Cette image de cette porte voilà, nous montre que c'est un choix personnel. Et il y a quelques jours, j'ai vu une vidéo d'une expérience, ils font parfois des expériences de groupe, j'ai trouvé ça intéressant, bon ça vaut ce que ça vaut, mais... en fait, il y avait un animateur donc, de l'émission, il y avait quelques personnes en face, Il y avait 6 personnes, je crois, et en fait, il y avait parmi ces 6 personnes, 5 personnes qui étaient complices avec l'animateur pour piéger la sixième. Et donc, l'animateur posait des questions simples avec à chaque fois des réponses A, B ou C, et les personnes devaient se positionner en fait sur la réponse A, B ou C. Et donc l'animateur commence à poser des questions et en fait les 5 personnes qui sont complices font exprès de donner la mauvaise réponse et se positionner sur une réponse qui n'a aucun sens. Ça fait que dès le début, la personne qui elle est venue là pour jouer, qui sait pas qu'il y a une arnaque, elle se retrouve toute seule sur la réponse qui pour elle semble être évidente. Et donc ça continue comme ça pendant un petit moment et à chaque fois, les 5 personnes qui sont complices se positionnent sur une mauvaise réponse. Et au bout d'un moment, on voit que la personne, elle commence à se poser des questions. Et en fait, le but de cette émission, c'est de voir jusqu'à quel point on va jusqu'au bout de nos convictions, on reste figé sur nos convictions. Et malgré, au bout d'un moment, il y a les personnes qui commencent à se moquer même, à se dire, mais elle est bête, elle comprend rien, elle est tout le temps toute seule. Et en fait, le but de cette émission, c'est de voir jusqu'à quel point les gens vont rester convaincus de leur position ou, au bout d'un moment, à force de se sentir seuls, isolés et moqués, vont rejoindre le groupe alors qu'ils ont un doute sur la réponse. Et c'est intéressant de voir qu'il y a des personnes qui restent convaincues jusqu'au bout et d'autres qui, assez rapidement, de peur de se retrouver seuls ou à l'écart ou moqués, eh ben, même s'ils pensent que c'est pas la bonne réponse, ils vont se mettre dans toutes les dans tout le groupe. Et donc Jésus nous dit, ben, il faut que tu fasses un choix. Tu dois rentrer seul par la porte, même s'il y a beaucoup de monde qui passe par la porte large, toi tu dois te positionner. Je dois décider personnellement. Et c'est pas un choix que je peux faire pour un autre, et c'est pas quelqu'un d'autre qui peut faire ce choix, c'est pas mon conjoint qui peut choisir, c'est pas mon frère ou ma sœur qui peut choisir, c'est pas mes parents, c'est pas qui peuvent choisir à ma place. C'est moi qui, un jour, dois me positionner et dire oui, je veux passer par cette porte étroite. Il n'y a pas la place pour plusieurs. Par rapport à cette porte étroite, on a aussi cette image que voilà, je dois rentrer sans mes bagages. La porte, elle est étroite parce que si j'arrive comme ce petit jeune homme avec un sac à dos et un sac rempli de choses derrière moi, et qu'on voit la petite porte jaune au milieu, il se rend vite compte qu'il va y avoir un problème. Et j'en reviens encore à l'histoire de ma grotte. Quand on a décidé de passer par ce passage étroit, il nous a bien dit, bah, par contre, là, on va laisser les sacs parce que vous vous rendez bien compte que vous allez devoir passer par le passage, mais même avec une grosse veste, ça va pouvoir coincer. Et donc, votre sac à dos, vous le laissez là, ça ne va pas pouvoir passer avec votre sac. Et cette image de la porte étroite, ben, c'est ça aussi, c'est un second point, c'est qu'on ne peut pas passer par cette porte étroite si on arrive avec un gros sac à dos sur le dos. Et dans ce sac à dos sur le dos, ben, on peut avoir plein de choses. Dans Marc 8, 34, Jésus il nous dit, puis il appela la foule avec ses disciples et il leur dit, si quelqu'un veut être mon disciple, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Donc il y a l'idée de renoncer à soi-même. Tout ce qu'on peut avoir dans notre sac à dos, c'est ben, tout notre orgueil peut-être. Ça peut être, oui, ben, je vais y arriver par moi-même. Je vais, par mes propres forces, je vais avancer dans la vie. Je n'ai pas besoin d'un Dieu dans ma vie. Je vais gérer ma vie tout seul. Ça peut être nos secrets, ces choses qu'on veut pas trop dire à Dieu. Voilà, Jésus, je te confie ma vie, mais cette partie-là, ben, ça va être trop dur d'y renoncer. Ça, je pourrais pas y arriver. Je les garde pour moi. Oui, Jésus, je te donne ma vie, mais pas toute ma vie. Ça, je garde pour moi. Et ça fait partie des choses qu'on peut avoir dans notre sac à dos. Et Jésus nous met aussi en garde sur les biens matériels. Il y a une parabole qui parle d'un chameau et d'une aiguille. Alors pendant longtemps, j'ai pas trop compris qu'est-ce que ça voulait dire en fait, ce chameau et l'aiguille, pourquoi cette image-là. Je vais juste vous lire le texte et ensuite on va regarder un petit peu ce que ça veut dire. Mes enfants, qu'il est difficile d'entrer dans le royaume de Dieu. Il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Ils étaient de plus en plus impressionnés, ils se disaient entre eux, alors qui peut être sauvé? Fixant sur eux son regard, Jésus dit, aux hommes, c'est impossible, mais pas à Dieu, car tout est possible à Dieu. Et en faisant un petit peu des recherches il y a quelques temps, je me suis rendu compte que le trou d'aiguille, c'était en réalité une porte étroite située dans la muraille à côté de la porte principale. À l'époque, il y avait des murailles avec la porte principale, et il arrivait que le soir, en fait, la porte principale était fermée. Il existait une petite porte à côté, une porte étroite, qui s'appelait le trou d'aiguille, qui permettait aux voyageurs qui arrivaient un peu tard et que la grande porte était fermée de passer par là. Alors, il y en a qui, voilà, qui croient vraiment à cette théorie, d'autres qui sont un peu plus douteux sur le fait que c'est vraiment ça l'interprétation. En tout cas, ça semble nous expliquer cette parabole. Et on comprend mieux pourquoi ça parle d'un chameau qui peut passer dans le trou d'une aiguille. C'est pas forcément une aiguille comme sur l'image, mais sur cette petite porte étroite. Attention, hein, comme on l'a déjà vu, l'argent n'est pas mauvais en soi. C'est pas mauvais de gagner de l'argent, de travailler, comme on l'avait vu dans d'autres passages dans Matthieu. Mais c'est dangereux si on n'arrive pas à renoncer à cet argent, et si on passe cette porte et que ça coince parce qu'on n'arrive pas à laisser des choses derrière nous. Ça peut être de l'argent, ça peut être plein de choses. On a tous nos luttes et nos faiblesses. Mais en tout cas, Jésus nous met en garde par rapport à ces biens matériels. Comme les disciples, on peut être un petit peu découragé en se disant que c'est impossible. Là, les disciples, ils écoutent ça, ils disent, bah alors, qui peut être sauvé en fait? Qui peut être sauvé? Le riche, ben, ça va être impossible pour lui de rentrer dans le royaume de Dieu. Nous aussi, on est pécheurs, on n'arrive pas à être parfait comme toi, on ne le sera jamais, alors ça va être impossible pour nous d'être sauvés. Et cette réponse de Jésus qui nous dit, à vous, oui, aux hommes, ce sera impossible, mais grâce à moi, ce sera possible, car à Dieu, tout est possible, à Dieu. On peut être découragé, on peut se dire qu'on n'y arrivera jamais, mais ce qui compte le plus pour Dieu, c'est l'attitude de notre cœur, c'est notre désir de venir à lui, voilà, démuni, dépendant de lui, de passer cette porte étroite en se disant, bah voilà, je renonce à moi-même, je viens, je suis démuni et je te fais confiance, je viens avec foi. Il est mort à la croix pour moi, il est ressuscité, c'est lui le chemin qui nous mène au Père, et voilà, il nous demande de venir à lui avec foi. Et c'est mon troisième point par rapport à cette porte étroite, c'est qu'on doit rentrer par la foi. Tout d'abord, on a vu qu'il fallait qu'on rentre tout seul parce qu'il n'y a pas la place de passer à plusieurs dans cette porte. Ensuite, on ne peut pas rentrer si on est chargé, si on est chargé de notre orgueil de vouloir vivre sans lui, si on ne se décharge pas complètement de tout ce qui nous empêche de venir à lui. Et un troisième point, c'est que la porte, elle est étroite parce que ben, on fait confiance au guide. On ne sait pas forcément qu'est-ce qu'il y a derrière la porte. On sait que Jésus nous dit qu'il y a la vie, mais voilà, on voit pas forcément de nos yeux qu'est-ce qu'il y a derrière. Et on fait confiance au guide. Dans Jean 10, verset 7, Jésus nous dit, vraiment, je vous l'assure, je suis la porte par où passent les brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi étaient des voleurs et des brigands. Mais les brebis ne les ont pas écoutés. C'est moi qui suis la porte. Celui qui entre par moi sera sauvé. Il pourra aller et venir librement. Il trouvera de quoi se nourrir. Le voleur vient seulement pour voler, pour tuer, pour détruire. Moi, je suis venu afin que les hommes aient la vie, une vie abondante. Et on voit dans ce passage que Jésus, c'est la porte. Quand il nous demande de passer par la porte étroite, en fait, Jésus se décrit aussi comme lui étant la porte et qu'on doit passer par lui pour avoir la vie éternelle. C'est le seul chemin possible pour être réconcilié avec le Père et pour avoir la vie. Et quand Jésus il a choisi ses disciples, il leur a dit, suis-moi. Je pense par exemple à Pierre et Jean qui étaient en train de pécher. Jésus leur a venu les voir et leur a dit, suivez-moi. Et ils ont dû renoncer à tout ce qu'ils avaient, à renoncer à leur métier, leur cercle, leur famille, tout ce qu'ils avaient là. Et on voit qu'ils ont écouté, ils ont eu la foi, ils ont suivi Jésus. Ils ne savaient pas forcément ce qui les attendait. Et peut-être que s'ils avaient su tout ce qu'ils allaient vivre avec Jésus, ils ne seraient pas forcément positionnés aussi vite. En tout cas, ils y sont allés avec foi. Matthieu aussi, qui laisse derrière lui une situation confortable. Il avait ce métier de collecteur d'impôts qui fait qu'il avait une situation privilégiée avec les Romains, qu'il était protégé, qu'il avait beaucoup d'argent. Et à un moment donné, Jésus, il vient le voir, il lui dit, suis-moi. Et on voit que Matthieu, à ce moment-là, il le suit. Voilà, il laisse derrière lui toute cette situation confortable. Et il sait qu'il va perdre des choses, mais que la vie avec Jésus va être tellement merveilleuse derrière qu'il fait ce pas de foi et qu'il décide de franchir cette porte, voilà, cette porte qui est Jésus-Christ, par la foi. Et une fois qu'on a franchi la porte, ben on se retrouve sur un chemin. Jésus nous parle d'une porte et ensuite d'un chemin. Et dans notre région, on fait bien la différence entre un chemin de randonnée sur les crêtes de la Chartreuse, voilà, qui suit la montagne, qui est étroit, qui est resserré, ou alors le bord du plan d'eau d'Elonne à Pontcharrat, où là, le chemin il est quand même beaucoup plus carrossable, il est large, il est plat, il n'y a pas beaucoup d'embûches. Dans notre région, c'est facile de s'imaginer la différence. Un sentier difficile, il va y avoir des virages, il va y avoir des racines, il va y avoir des cailloux, il va y avoir peut-être du vide, des montées, des descentes, de la boue. Et c'est l'histoire de la vie, en fait. Je pense qu'il n'y a personne ici dans cette pièce qui peut dire que sa vie, elle est toute plate comme le chemin à droite. On a tous des épreuves dans la vie, on a tous des montées, des descentes, on a des glissades, on a peur parfois. Et Jésus n'a jamais promis que le chemin y serait facile. Et même ceux qui croient pas en Dieu, bah, ils ont aussi des épreuves. Ils traversent cette vie comme nous sur Terre avec des maladies, des peurs, avec des luttes, avec des échecs. Et on est tous sur la Terre. Le péché est entré dans le monde. Et voilà, on doit vivre avec ces épreuves. Et par contre, Jésus nous Il nous dit que ben, si vous m'acceptez, si vous franchissez cette porte, par contre, le chemin, il va être difficile, il va être resserré. Et encore plus si vous vous positionnez pour moi. Par exemple, dans Matthieu 5, verset 11, on peut lire: Heureux serez-vous lorsqu'on vous insultera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Ou encore dans 2 Timothée 3, 12, du reste. Tous ceux qui veulent vivre avec piété en Jésus-Christ seront persécutés. Alors parfois ça donne pas envie de franchir cette porte. On se dit que on est bien sur le chemin qui est large, qui n'a pas d'embûche. Et en plus, Jésus nous promet que si nous dit que nous avertit que si on franchit cette porte, bah, le chemin il sera encore plus difficile, on sera insulté, on sera persécuté, on sera moqué. Ça donne pas forcément envie. Mais la différence, c'est que entre ceux qui confient leur vie en Jésus et ceux qui décident de mener leur vie toute seule, c'est que dans les épreuves, ben on n'est pas seul. On n'est pas seul dans ces épreuves et Jésus nous a fait aussi ses promesses. Dans Matthieu 28, 20, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et un verset aussi dans Jean 14 que tu avais lu tout à l'heure, Florent. Et moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous, l'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez, car il demeure en vous, pardon, avec vous et il sera en vous. Donc, une fois qu'on a franchi cette porte et qu'on a décidé de donner notre vie à Jésus, voilà, on arrive sur un sentier qui est difficile, qui est resserré. Mais on n'est pas seul dans ces épreuves. Quand il y aura des glissades, quand il y aura des racines qui seront là devant nous sur le chemin, on a cette promesse que nous ne sommes pas seuls. On a Jésus qui est avec nous, on a le Saint-Esprit qui est en nous, on a aussi des frères et sœurs qui sont avec nous sur ce chemin resserré, parce que heureusement on n'est pas tout seul sur ce chemin resserré. Il y a une foule qui suit le chemin large, mais il y a aussi quelques personnes qui suivent ce chemin resserré. Et on est là pour aussi s'entraider les uns les autres sur ce chemin qui est difficile. Un deuxième point par rapport à ce chemin, c'est que oui, le chemin est resserré, il y a des épreuves, mais que nous avons un but sur la terre qui est de glorifier Dieu. Et quand j'étais plus jeune, je voyais la vie chrétienne plutôt comme une liste de choses à pas faire. Il y avait des règles que j'avais entendues, des choses qu'il fallait pas que je fasse pour espérer être sauvé, ou alors être bien vu de Dieu, ou je me disais que bah, la vie chrétienne, ça allait être juste arrêter de faire des choses qui me plaisaient, que je pourrais plus faire après. Mais ensuite, j'ai compris que c'était pas ça. C'était pas ça du tout. Et que oui, il fallait que je me positionne à un moment donné, il fallait que je fasse un choix. Que je fasse confiance à Jésus, que je passe par cette porte. Et que ma mission sur cette terre, c'était de glorifier Dieu. Et j'ai compris cette grâce, déjà que Jésus, il était mort pour moi. Il était ressuscité. Et que ma mission maintenant, c'était de glorifier Dieu. C'était pas juste une liste de contraintes, de choses qu'il fallait plus que je fasse pour espérer avoir la faveur de Dieu. Non, cette faveur, je l'avais déjà reçue parce que Jésus, il est mort à la croix pour moi. Et je n'étais pas engagé dans cette vie, sur ce chemin resserré, parce que juste pour avoir un travail, avoir mes projets, peut-être faire plein de choses. Et quand, dès que ça va pas, dès qu'il y a une épreuve, ben, du coup, il y a un peu tout qui se remet en question dans ma vie parce que voilà, je vis une épreuve, peut-être que je suis blessé, je suis malade, et du coup, ben, je peux plus faire telle ou telle chose que j'avais prévu de faire. Et en fait, Dieu nous rappelle que on est sur un chemin resserré qui est difficile, mais que notre mission principale, c'est de le glorifier. Je voulais simplement vous relire ces quelques versets de la parole qui nous parle de glorifier Dieu. Dans 1 Corinthiens 6, 20, vous ne vous appartenez pas à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Rendez donc gloire à Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Encore dans Éphésiens 1, 5, 6, Dieu nous a prédestinés à être ses enfants adoptifs par Jésus-Christ pour que nous célébrions la gloire de sa grâce dont il nous a comblés dans le bien-aimé. Et dans Éphésiens 2, 10, en réalité, c'est lui qui nous a fait, nous avons été créés en Jésus-Christ pour des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance, avant, afin que nous les pratiquions. Et je voulais vous encourager ce matin à vous dire que oui, nous sommes sur un chemin qui est difficile, qui est resserré, parce que peut-être que tu as fait le choix de franchir cette porte étroite et que tu te retrouves aujourd'hui sur ce chemin qui est difficile, ce chemin qui est à contre-courant de ce monde, mais que ta mission, c'est de glorifier Dieu et qu'il y a des œuvres bonnes qui ont été préparées d'avance pour que tu les pratiques, pour qu'on les pratique. Et parfois, on se retrouve sur ce sentier et on est tenté de bifurquer. On se retrouve à des croisements dans la vie, parce que la vie, c'est pas juste une route qui part là au début et puis ensuite, voilà, c'est comme ça. Mais il y a plein de croisements qui sont là dans notre vie et tous les jours, on doit se positionner, faire des choix. On va aller travailler cette semaine, on va aller à l'école et il va y avoir des choix qui vont être là devant nous. Il va y avoir des routes qui se croisent et à chaque fois, on va avoir un choix à faire aussi de rester sur ce chemin qui est difficile, sur ce sentier difficile, ou de bifurquer en se disant bon ben là, trop dur, je vais retourner un petit moment sur le chemin large au bord des Lônes parce que c'est quand même plus simple. Parfois, on perd aussi de vue notre mission. On a nos envies, on a nos projets. Et dès qu'il y a une petite épreuve dans la vie, on se dit que ben, du coup, tout ce que j'avais prévu, ça s'est annulé parce que j'ai quelque chose qui ne va pas. Et on oublie parfois que le projet premier, numéro un dans notre vie, c'est de glorifier Dieu. Et peu importe si on est dans une période de notre vie où ça va bien, où tout roule, ou s'il y a des épreuves, et ben, même dans les épreuves, on peut glorifier Dieu. Et voilà, on est sur un chemin de sanctification. Si tu as franchi cette porte et que tu es sur ce chemin resserré, ben, il y aura des embranchements, des bifurcations, des choix à faire. Et on doit faire des choix aussi au quotidien. C'est pas juste un choix au début, mais c'est des choix qui sont à faire au quotidien en se disant, oui, là, je continue de me positionner pour toi, Seigneur. Je veux faire avancer ton royaume, te servir du mieux que je peux. Et au final, Dieu nous promet la vie. Et une fois qu'on est à. Je pense que vous avez tous fait peut-être une randonnée dans votre vie, vous avez tous connu ce moment où on souffle pour monter, on a chaud, on a soif, on a faim, on a mal aux pieds, on est dans la forêt, il n'y a rien à voir, et on se dit, mais bon, bah, en fait, j'aurais mieux fait de rester dans mon jardin et puis me reposer un peu, mais on se pose des questions des fois dans notre tête, on se dit, mais pourquoi, qu'est-ce que je fais là? Et parce qu'on sait qu'en haut, eh ben, on aura une vue incroyable sur les sommets, on pourra se reposer, on pourra boire, on pourra savourer ce moment. Et c'est cette récompense que Dieu il nous promet. On n'aura pas cette récompense si on reste en bas dans la vallée. On aura certes une belle vue sur des montagnes qu'on voit, mais on n'aura pas cette récompense d'avoir cette vue à 360 degrés sur ce qui nous entoure. Et Jésus, voilà, il nous promet que si on tient bon Et ben voilà, on aura la vie, d'une part la vie éternelle avec lui. Dieu nous prépare une place merveilleuse au ciel. Mais déjà aujourd'hui, on aura cette vie avec lui au quotidien, parce qu'on pourra être dans ses plans, rentrer dans ses plans, de se dire que notre vie, ben voilà, on lui a confié et que c'est lui qui en a les rênes. On peut avoir cette vie de paix, de joie avec lui. Certes, ce ne sera pas tout rose, et ça ne l'est pas. Mais en tout cas, Dieu nous promet la vie éternelle avec lui, et la vie, une vie pleine qui prend tout son sens lorsque l'on lui confie nos vies entières. Et j'aimerais voilà, conclure ce passage en résumant que ben, Dieu, ce matin, il t'invite à faire un choix. Peut-être que tu n'as pas encore pris la décision d'entrer par cette porte étroite, de donner ta vie à Jésus. Et ce matin, ben voilà, Dieu il t'offre la possibilité de le faire, de donner ta vie à Jésus. Et ce sera le meilleur choix que tu pourras faire dans ta vie, de donner ta vie à Jésus.